avant le report, j'ai mentionné quelques avantages du postmodernisme tel que je l'ai défini. Nous pouvons ajouter aussi une approche d'humilité. Ça ne fonctionne pas toujours comme cela, comme nous allons voir, mais on dirait qu'il y a un peu plus d'humilité quand on admet que des fois nous n'avons pas les bonnes réponses, ou nous n'avons pas la vérité, ou nous examinons un tel et tel sujet de notre perspective. Il y a un emphase sur l'humilité dans cet héritage qui n'est pas complètement méchante. Et avec cela arrive aussi une tolérance. Maintenant, la nature de tolérance a été corrompue aussi, comme nous allons voir. Mais quand même, la tolérance est beaucoup mieux que l'Holocauste. Si ça c'est notre choix, je préfère la tolérance, malgré le fait que la tolérance prévue par Voltaire n'est pas exactement la tolérance qu'adopte l'Église émergente, comme nous allons voir. Mais quand même, si la choix est entre tolérance et l'intolérance, c'est pas mal inévitable que la tolérance est beaucoup plus belle. Ça nous attrait. Et avec cela aussi arrive une sensibilité envers d'autres cultures. Les Américains pensent qu'ils sont les meilleurs du monde. Mais j'ai remarqué que les Français pensent qu'ils sont les meilleurs du monde. Et les Anglais, pareillement, et ainsi de suite, après tout, hein? Et avoir au moins un soupçon de tolérance et pluralisme et connaître, après tout, qu'il y a d'autres perspectives et dans nos grandes villes, maintenant, une diversité de cultures et de races et tout cela, ça nous amène à, assez souvent, une sensibilité envers d'autres cultures qui n'est pas complètement méchante. Il y a quelques années, à Trinity, on avait un étudiant de l'Afrique, du Congo, Kenzo, Mabiala Kenzo, il s'appelait. Il voulait faire un doctorat de troisième cycle sur la question comment répondre au postmodernisme de l'Afrique francophone. Et franchement, j'ai passé assez de temps en Afrique pour savoir qu'il y a de grands endroits où on n'a pas encore quitté le pré-modernisme. Parler de post-modernisme, il me semblait, était un peu trop. Mais il m'a convaincu. Dans le monde de l'Afrique francophone de l'Ouest, surtout, dans les quarantaines et dans les cinquantaines, il y avait un mouvement qu'on appelait la négritude. Qui voulait tout simplement créer un peu d'espace pour les cultures africaines. Après tout, pour ceux qui voulaient avancer du point de vue de formation, d'éducation, université, troisième cycle, il fallait aller en France, il fallait apprendre la langue française, il fallait apprécier la culture française. Après tout, c'était une région coloniale. Donc les Français étaient les meilleurs. Et donc, pour créer un peu d'espace pour élever les cultures africaines, ils ont créé le mouvement La Négritude, qui voulait tout simplement relativiser toute culture afin de créer un peu d'espace pour les cultures africaines. On comprend leur vœu, n'est-ce pas? Leur désir. Mais, naturellement, en relativisant toute culture, en fin de compte, pour créer un peu d'espace, ça c'était la base du mouvement de la négritude, en réalité, on arrive à une espèce de pluralisme, de multiculturalisme qui est pas mal semblable à ce qu'on a dans l'Ouest pour d'autres raisons aujourd'hui. Et après tout, si ces jeunes Africains voulaient écrire, voulaient lire la littérature française, c'était dans les années 50, les années 60, c'était les écrits de Foucault et de Lyotard et ainsi de suite, après tout. Et avant ces personnes, c'était les existentialistes, par exemple, aussi, et ceux qui écrivaient contre eux, Camus, l'un côté, Jean-Paul Sartre, l'autre côté. Donc, c'était leur rangée d'étoiles. Et ils ont adapté cette rangée de pensées à leurs propres circonstances, et voilà une espèce de, comment est-ce qu'on va l'appeler, postmodernisme africain. Comment donc y répondre avec l'Évangile, qui insiste en fin de compte qu'il y a un chemin, une voie à suivre pour atteindre la vie éternelle. En réalité, c'était une réponse contre la notion qu'il y a une culture qui est supérieure. Et un des résultats, en fin de compte, un des résultats de ce mouvement de postmodernisme, c'est une sensibilité envers d'autres cultures. Je ne veux pas dire non plus par cela que toute culture a exactement la même valeur et les mêmes forces et les mêmes faiblesses de toute autre culture. Est-ce que la culture de nazisme vaut exactement la culture des Hollandais qui protégeaient les Juifs? Et en fin de compte, nous sommes tous perdus. Mais quand même, il faut prendre soin de ne pas dire que la mienne est toujours la meilleure aussi. Par quelle sorte de mesure faut-il s'approcher de ces questions? Eh bien, maintenant c'est le temps de commencer une critique, mais à la fois, cette critique va continuer de reconnaître qu'il y a des ressources et de bonnes choses dans le mouvement quand même. Il faut admettre d'abord que le mouvement n'est pas seulement un mouvement. Une partie de ce mouvement est en effet le mouvement évangélique, plus ou moins quelques cantiques ou des traditions ou une autre manière de faire l'Église. En effet, c'est le mouvement confessionnel historique avec quelques choix que vous pouvez adopter ou rejeter. Ça ne fait pas grande différence. À l'autre extrême, quand même, c'est presque le libéralisme de 1920, renouvelé par le postmodernisme. Donc, il y a une rangée extrême dans le mouvement propre. Et donc, ce que je peux dire envers Spencer Burke, par exemple, un de leurs écrivains, je ne pourrais pas dire en ce qui concerne Brian McLaren ou Steve Chalk, deux autres de leurs écrivains. Les généralisations sont exactement cela, des généralisations. Et il faut des fois ajouter quelques notes pour dire je ne parle pas de tout le monde dans ce mouvement, dans cette conversation, mais quand même, il faut interroger chaque écrivain quand même. Eh bien, premièrement, je prétends que l'Église émergente ne comprend pas vraiment bien la discussion contemporaine en ce qui concerne le postmodernisme. La raison, c'est parce que ils ont une penchée pour adopter les positions les plus sévères, les plus extrêmes, pour créer une espèce d'antithèse entre ce que c'est le postmodernisme et le modernisme, pour complètement condamner le modernisme et pour bénir le postmodernisme. Mais si quelqu'un commence à à lire cette littérature, ils vont découvrir, si quelques-uns essaient de comprendre cette littérature, ils vont découvrir qu'il y a une grande diversité dans cette littérature aussi, une grande diversité. Pour quelques-uns, ils croient que ce qui est au centre de postmodernisme, ce n'est pas l'épistémologie du tout, les questions que j'ai abordées ce matin, mais plutôt le matérialisme. Il y a toute une rangée d'écrivains, des érudits qui analysent le postmodernisme en fonction de matérialisme. Il y a d'autres qui examinent les positions qu'on trouve parmi les postmodernistes, mais avec un effort de balance, de trouver ce qui est bon, ce qui est mal. Mais parmi McLaren et Chalk et d'autres, le monde a tout changé. Nous sommes dans une autre culture. C'est tellement nouveau maintenant qu'il faut avoir une église nouvelle. C'est-à-dire il n'y a pas des étapes ou des positions différentes, il y a deux mondes. Donc nous lisons constamment parmi les leaders du mouvement que si vous n'acceptez pas que le monde quotidien c'est un monde postmoderniste, vous êtes déjà dépassé, vos églises ne peuvent pas grandir, vous êtes condamné à la ruine, il n'y a pas d'espérance pour le renouvellement ni pour l'évangélisation de l'Ouest et ainsi de suite, et ça continue. Donc ça polarise, n'est-ce pas? Vous êtes avec nous ou vous êtes contre nous? Mais en réalité, la culture est toujours beaucoup plus compliquée que cela. Toujours. Donc aujourd'hui, nous trouvons des existentialistes formés dans les soixantaines, et nous trouvons aussi des matérialistes, des athées, des spirituels soi-disant. Nous découvrons des personnes qui se disent modernistes à quelques niveaux. Les professeurs de chimie, de la physique sont environ modernistes dans leur discipline et postmodernes quand ça touche des questions de littérature ou de religion. Et ils sont pas tous sur la même page, hein? Et ça veut dire que même des notions comme tolération ont plusieurs nuances différentes aujourd'hui. Chez Voltaire, la tolérance fonctionne un peu comme ceci. Peut-être je déteste tout ce que vous enseignez, mais je vais défendre à la mort votre droit de l'enseigner. Parce que dans cette vision de tolérance, après tout, nous savons que si nous ne protégeons pas le droit d'autres personnes, le droit d'autres personnes de parler, de donner leurs opinions, ça pourrait être notre tour dans l'avenir. Après tout, il faut protéger le droit de parler, d'enseigner ce qu'on veut, même si c'est la folie, parce que ça protège en réalité la liberté. Mais dans la nouvelle définition de tolérance qu'on trouve presque partout aujourd'hui dans l'Ouest, en France, ici en Europe en général, dans l'Amérique du Nord, en Angleterre, on le trouve presque partout. Nous n'avons pas le droit, sous cette définition contemporaine de tolérance, de critiquer une autre personne ou une autre position. Si nous disons qu'une autre position, une autre personne, une autre religion a tort, nous ne sommes pas tolérants, nous sommes intolérants. Donc, dire qu'une telle et telle religion, disons la religion des musulmans, ou les témoins de Jéhovah, ou quoi que ce soit, ou le libéralisme, ou le catholicisme, ou n'importe quoi, ça ne fait rien, les évangéliques. Dire qu'ils ont tort, qu'ils se trompent, c'est déjà intolérant. Dire, ils ont leur point de vue, nous avons le nôtre, ça c'est tolérant. Mais ce n'est pas ça que disait, en fin de compte, Voltaire. Voltaire disait, je peux détester votre position et je vais dire que je la déteste, que je la déteste. Mais quand même, je veux protéger votre droit de l'enseigner, votre droit de faire vos prétentions et de donner vos définitions et de tout instruire comme vous voulez instruire. Voltaire était prêt à tout condamner en préservant la liberté. Mais pour nous aujourd'hui, si nous disons que quelqu'un a tort, nous sommes déjà intolérants. Et je prétends que cette compréhension de tolérance n'a pas une base morale ni une base intellectuelle. Du point de vue intellectuel, je ne peux même pas comprendre ce que cette définition de tolérance veut dire. Supposons que je dis, eh bien, toi tu es musulman ou toi tu es marxiste et moi je ne le suis pas. Il n'y a rien de mal dans votre position, dans ta position. Il n'y a rien de mal dans ta position, donc je peux te tolérer. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Comment est-ce qu'on parle de tolération quand il n'y a rien de mal dans la position? Il faut déjà dire qu'il y a quelque chose de mal, dans ma point de vue, dans votre position, avant de dire que j'ai une tolérance pour votre position. Dire que j'ai une tolération pour une position que je ne peux pas condamner, où se trouve la tolération? Vous voyez? Ça veut dire tout simplement que nous avons tous le droit d'avoir sa position et on ne peut pas savoir si une position est meilleure qu'une autre, c'est tout. Mais ce n'est pas la tolération. Et, deuxièmement, du point de vue moral, de plus en plus, cette définition de tolérance se trouve dans les instruments, par exemple, des Nations Unies et ailleurs, au Canada, ça fait partie de nos lois maintenant. Nous tolérons toutes choses sauf l'intolérance. Remarquez bien ce que ça fait, ce que ça donne. Si quelqu'un prend une position d'une autre compréhension de tolérance, nous ne sommes pas prêts à les tolérer. C'est la seule chose que nous sommes prêts à dire à tort. La seule chose que nous disons à tort, c'est-à-dire d'être intolérant selon cette définition de tolérance, cela, nous ne sommes pas prêts à tolérer. Vous voyez? Donc, si je dis, par exemple, à mon avis, la Bible condamne l'homosexualité, c'est une question véritablement difficile, mais je ne peux pas dire que c'est béni par Dieu et tout ça. Tout d'un coup, je suis intolérant. Et ma position ne peut pas être tolérée parce que c'est l'intolérance. Donc, il faut condamner ou, en fin de compte, même mettre en prison quelqu'un qui disent de telles bêtises parce que c'est l'intolérance. Donc, la seule chose qu'on ne peut pas tolérer, c'est l'intolérance. Et déjà, dans plusieurs pays dans l'Ouest, on a eu des cas dans les cours légaux, dans les cours? Les quoi? Les cours légales, oui. Pour examiner exactement cette question. Et les résultats sont un peu ébranlés à ce point, sont un peu mixtes. Mais c'est parce qu'il y a une nouvelle définition de tolérance sur la table ici. À mon avis, une des choses qu'il faut préserver, si c'est possible dans l'Ouest, soit en Suisse, soit au Canada, soit aux États-Unis, soit en France, n'importe où, si c'est possible, c'est l'ancienne définition de tolérance. Autrement, il y a grand danger que nous allons perdre quelques-unes de nos libertés. C'est-à-dire, il faut préserver, si c'est possible, le droit de contredire. Le droit de dire, à mon avis, votre religion se trompe. Votre position se trompe. Votre position de moralité se trompe, pour ces raisons. Sans la haine, sans l'orgueil, sans les bêtises, mais quand même avec fermeté, avec raison, avec persévérance, parce que si chaque fois que nous disons qu'une autre personne a tort, surtout dans le domaine religieux, nous sommes intolérants, tout d'un coup, nous n'aurons pas le droit, après un petit bout de temps, de convertir le monde. Ça arrive à une autre définition de liberté religieuse. Après tout, dans la plupart des pays, 37, 38 pays musulmans, il y a la liberté de religion, c'est-à-dire d'observer sa propre religion, pourvu qu'on ne se convertit pas d'être musulman à une autre religion. Mais ça veut dire, en effet, qu'on n'a pas le droit de critiquer la religion musulmane. Donc, cette définition de tolérance mène, encore une fois, à l'intolérance. Donc, au nom de liberté, au nom de postmodernisme qui dit, en effet, que nous n'avons pas le droit de critiquer d'autres personnes parce que chaque position est seulement la position d'un individu ou d'un mouvement, et pas plus que cela, et donc nous n'avons pas le droit de critiquer une autre position, tout d'un coup, on arrive, au nom de tolération, à l'intolérance. Et on ne lit presque jamais que l'Église émergente comprend ces choses qui sont un peu partout maintenant. De plus, quelques-uns parmi vous ont déjà mentionné que le mot postmoderne ou le mot postmoderniste a de sens différents ici en Europe, surtout en France, en comparaison avec l'utilisation en Amérique du Nord. Je suis d'accord. En réalité, c'est parce qu'en France surtout, ce mouvement était lié aux écrits de Lyotard, Foucault, Derrida et d'autres personnes. Et parce que leurs écrits sont déjà dépassés, démodés. On ne les lit presque jamais dans les universités françaises aujourd'hui. Ils sont déjà dépassés. On les lit encore dans les églises américaines, maintenant en traduction. Mais dans les églises françaises, leurs écrits sont déjà démodés. Et parce que postmodernisme était lié à leurs écrits, donc le terme lui-même commence à être démodé. Oui, je comprends cela. Mais si nous ne parlons pas tout simplement des racines du mouvement, dans l'herméneutique des Allemands ou les influences littéraires des Français, je n'ai pas encore mentionné les influences de l'anthropologie en Amérique du Nord et des choses comme cela. Mais nous examinons tout simplement le résultat aujourd'hui. Je m'en fiche si vous appelez ce mouvement postmoderne ou d'autres choses. Le terme n'est pas le grand détail ici, mais l'idée de flexibilité et d'être ouvert vers l'avenir, vers d'autres positions et avoir une position en ce qui concerne la volonté qui est plus ouverte et ainsi de suite. Vous pouvez donner ce mouvement un autre nom que le postmodernisme si vous préférez, mais de lire constamment chez par exemple McLaren, un des plus grands leaders, les écrits de Foucault ou les écrits de Lyotard, comme si ces personnes contrôlent la pensée de l'Europe aujourd'hui, c'est déjà tellement dépassé et démodé que c'est un peu troublant. C'est comme si un mouvement arrive et les évangéliques découvrent ce mouvement à peu près 25 ans, 35 ans après tout le reste du monde, et ensuite on dit que c'est la meilleure chose qu'on a jamais trouvée, et tout d'un coup nous avons un mouvement évangélique basé sur un mouvement qui est déjà presque mort. Ce n'est pas l'avenir, cela. C'est regarder toujours dans le miroir. Et c'est un des faits, il me semble, un peu troublant. Deuxièmement, l'Église émergente ne comprend pas le modernisme très bien, ne comprend pas très bien le mouvement modernisme. C'est-à-dire, si l'Église émergente veut toujours bénir ce qui est postmoderne, l'Église émergente veut à la fois presque toujours condamner tout ce qu'on peut appeler moderne. Mais en fin de compte, il faut reconnaître que le modernisme nous a donné aussi la science. Avec Médecins sans frontières. C'est-à-dire, c'était basé sur un système de découvrir ce qui est dans l'univers. Avec une science linéaire, avec expérimentation. Il y a un grand nombre de choses qui nous ont bénis, n'est-ce pas? Par les résultats de la science. Par exemple, nous pouvons faire grandir le blé dans un beaucoup plus grand pourcentage aujourd'hui qu'il y a 100 ans, qui nourrit des millions et des millions de personnes à travers le globe que nous n'aurions pas pu faire manger il y a même 100 ans. Et même si nous n'aimons pas le matérialisme de l'Ouest, quand même, nous sommes arrivés ici en auto, ou par avion, ou par train. Nous avons tous nos ordinateurs. Nous découvrons un grand nombre de vérités par nos ordinateurs. Nous sommes en communication instante avec nos missionnaires en Afrique ou ailleurs par nos ordinateurs. Ils sont tous méchants, ces choses? Méchantes, ces choses? La réalité, c'est que le pré-modernisme, qui commençait avec Dieu, avait une vue de l'univers, une position envers l'univers tellement ouverte que ça menait à la fois à la superstition. Les diables et les démons et les anges partout. Oui, Dieu était au centre, mais ils avaient une attitude de superstition vis-à-vis l'univers qui était renversée par le modernisme, qui nous a donné la science et bien des avantages, mais à la fois parce que nous sommes corrompus, et je m'en fiche, n'importe quelle épistémologie nous pouvons corrompre, donc, l'épistémologie du modernisme aussi a été corrompue par nous, des pécheurs, des rebelles, des idolâtres. Et donc, maintenant, nous voulons, chez le modernisme, nous voulons adorer la pensée humaine, l'indépendance humaine, la littérature humaine, la science humaine, les découvertes humaines, comme si les humains, les êtres humains, sont au centre de l'univers. Quand même, par la grâce de Dieu, la grâce commune de Dieu, ils avaient de grandes forces chez le postmodernisme. Ça vaut encore la peine de lire Thomas d'Aquin, même s'il s'est trompé à maintes reprises. Et il y avait de grandes forces chez les modernistes. Si vous n'y croyez pas, bon, vous pouvez retourner chez vous à pied. Après tout, il y a des avantages dans chaque domaine par la grâce de Dieu, mais on peut les corrompre. Mais aussi, pareillement, dans le postmodernisme. Si nous soulignons tout simplement ce qui est de bien dans le postmodernisme et nous n'essayons pas de comprendre les dangers dans le postmodernisme, tout d'un coup, nous sommes en danger de créer une autre idole. Si on avait autrefois l'idole ou la présupposition du modernisme, maintenant nous sommes en danger de créer une autre idole. Les avantages du postmodernisme, comme si le postmodernisme est en réalité le renouvellement de la vraie foi. Par exemple, souvent les postmodernes disent que les modernistes voulaient toujours découvrir la vérité, toute la vérité. Ils avaient de grandes prétentions en ce qui concerne leur capacité de découvrir la vérité. Et donc, ils étaient orgueilleux. Mais tout dernièrement, chaque fois que je lis quelqu'un dans cette période, entre à peu près 1630 et 1950, 1970, quand je lis leurs livres aujourd'hui, je marque chaque fois que je trouve l'humilité dans leurs écrits. Parmi les scientistes, parmi les érudits bibliques, par exemple, l'un des plus grands érudits bibliques vers 1900-1910 était un professeur nommé Westcott à l'université de Cambridge. Westcott. J'ai lu à maintes reprises dans ses écrits comment, néanmoins, toute sa connaissance biblique, il ne connaissait pas le plus petit, la plus petite partie, la plus petite quantité de toute la connaissance possible de ce qu'enseigne la Bible. Et il trouvait à maintes reprises que ce qu'il pensait qu'il comprenait, plus qu'il étudiait, il corrigeait sa pensée antérieure parce qu'il apprenait encore, rempli d'humilité. Et il est moderniste. Est-ce que l'humilité a été inventée par les postmodernes? Donc, souvent, l'Église émergente nous donne une vision de modernisme qui n'est pas juste, qui n'est pas gentille, qui n'est pas vraie. Sans doute, il y avait des orgueilleux parmi les modernistes, mais je trouve aussi des orgueilleux parmi les postmodernistes, n'est-ce pas? Et je trouve assez facilement l'orgueil dans mon propre cœur. Ce n'est pas comme si l'humilité avait été inventée par les postmodernes et l'orgueil était l'invention du modernisme. Et même, chez les modernistes, parce qu'ils croyaient que la vérité était quelque chose qu'on devait poursuivre. C'était un but. Malgré le fait que, de mon point de vue, leur épistémologie pour le découvrir n'était pas vraiment fiable, quand même, le but de découvrir ce que dit quelque chose, ce que ça signifie quelque chose, c'était un but qui ne nous a pas donné seulement la science, mais aussi des avances dans les études bibliques. Comment comprendre le grec? Comment écrire de meilleurs commentaires? Comment être juste dans notre utilisation de mots? Il y a des avantages dans ces études aussi, à travers les derniers 5 siècles. Et de dire maintenant, ce qu'on trouve assez souvent dans les écrits des postmodernes, eh bien, je donne maintenant une interprétation de l'Évangile selon Jean, de la position, quoi que ce soit, critique littéraire ou la position féministe ou la position africaine ou la position d'un anglophone de Chicago ou la position de quoi que ce soit, comme si c'est seulement une autre position, sans même l'effort d'essayer de comprendre ce que le texte dit. Il y a quelque chose qui a été perdu dans ce mouvement de modernisme vers le postmodernisme, n'est-ce pas? En réalité, j'ai parlé autrefois du fait que maintenant il faut parler, il me semble, de deux sortes de postmodernisme, le postmodernisme doux et le postmodernisme dur. Le postmodernisme dur dit en effet: il n'y a pas manière de comprendre la vérité publique ou objective. C'est tout simplement une création de ma position culturelle. Mais le postmodernisme D'où, comprends que chaque fois que je prends position, c'est une position de perspective, ça reflète le fait que je suis fini, je me trouve dans une certaine place de l'histoire, de culture, de langage, et ainsi de suite. Mais quand même, je peux m'approcher de la réalité. Pas avec la connaissance omnisciente de Dieu seul, mais je peux tellement m'approcher de la réalité, en fin de compte, que je peux dire qu'à ce point ou un autre point, je sais ce qui est vrai. Donc, cette position admet qu'en fin de compte, toute ma connaissance, c'est la connaissance d'une telle et telle perspective. Dans ce sens, nous sommes tous postmodernes. On ne peut pas éviter cela. Ça nous encourage d'être remplis d'humilité. Mais à la fois, de l'autre côté, c'est la même chose, en effet, que le modernisme discipliné. Le modernisme essaie de découvrir la vérité et un tel modernisme, un modernisme doux, est prêt à la fois de dire « Eh bien, peut-être je vais découvrir d'autres choses qui vont corriger ma position ou qui vont améliorer ma compréhension. » Donc, tout d'un coup, le modernisme doux et rempli d'humilité arrive à peu près à la même place que le postmodernisme doux qui admet, en fin de compte, je me trouve dans une certaine position dans l'histoire, dans la culture, dans les langues du monde. Et donc, j'ai une position établie en partie de ma propre perspective. Mais quand même, je peux m'approcher de la réalité établie par Dieu lui-même, parce qu'après tout, Dieu a parlé dans les langues humaines. Et je peux dire, je connais la vérité, même si je ne peux pas le connaître avec l'omniscience de Dieu. Et tout d'un coup, ces deux positions, le postmodernisme doux et le modernisme discipliné, ne sont pas si éloignés qu'on pensait. On commence à retrouver le centre. Si vous savez lire l'anglais, il y a un livre que j'aimerais mentionner, publié par Johns Hopkins University Press. Ce n'est pas écrit par des croyants, mais par deux scientifiques, mais un scientiste, un professeur de physique et un mathématicien. Le titre du livre, c'est « Higher Superstition ».« Higher Superstition », publié par Johns Hopkins University Press, 1995 à peu près. Mais ça vaut encore la peine de le lire. Ils ne sont pas chrétiens du tout. Mais ils sont tellement déçus par le mouvement postmoderniste dans leurs universités que franchement, maintenant, ils veulent diviser les universités en deux. Ceux qui poursuivent la vérité, soit dans les affaires ou les ordinateurs ou la physique, la chimie, ce qu'on appelle en anglais « the hard sciences », les sciences avec mesure. Et l'autre côté, on va mettre la psychologie, l'anthropologie, la littérature et tout cela. Et ils peuvent parler pour toute éternité de leur découverte et de leur perspective et de leur position et leur tolérance, mais ils ne vont jamais découvrir la volonté. Franchement, ils ne devraient pas se trouver dans nos universités. Mais non, c'est un peu fort. Mais encore, c'est la rébellion contre cet amour pour la littérature du postmodernisme. Je prêche assez souvent dans les universités, des missions d'évangélisation dans plusieurs universités, surtout en Australie et l'Angleterre et l'Amérique du Nord. Et ce que j'ai découvert, c'est que dans les églises évangéliques à côté de ces universités, quand il y a un pourcentage assez agréable de chrétiens de ces universités, soit les étudiants, soit les professeurs, dans ces églises, le pourcentage, le ratio entre scientistes, c'est-à-dire entre scientistes et les beaux-arts de ces personnes. Le ratio, c'est entre 6 à 1 à 18 à 1. Et il me semble qu'une des raisons pour ce ratio, c'est que les scientistes, au moins, ils ont encore une place pour la vérité. Et donc, ils sont plus ouverts à une relation, à une religion qui prétend avoir la vérité, que les étudiants et les professeurs qui se trouvent dans un milieu où, franchement, il n'y a pas de vérité sauf la vérité individuelle ou, culturelle ou de race. Vous voyez? Et je prétends donc que de bénir tout ce qui est postmoderne et de condamner tout ce qui est, moderne manque le coup les deux côtés. En plus, il me semble qu'il faut admettre aussi qu'il y a de tentations différentes dans les assemblées différentes du mouvement évangélique, par exemple. Si vous vous trouvez dans la tradition réformée, par exemple, peut-être vous allez être tenté de suivre les études contemporaines en ce qui concerne la justification, la soi-disant nouvelle perspective sur Paul qu'on trouve chez Tom Wright et chez Jimmy Dunn et d'autres personnes. Si, par exemple, vous vous trouvez parmi les églises arméniennes, probablement vous serez plus tenté à suivre ce qu'on appelle en anglais « the openness of God theology », la théologie de l'ouverture de Dieu. Est-ce qu'on parle de cela? De la quoi? Le théisme ouvert. Merci. Dans le théisme ouvert, est-ce que c'est une expression que vous connaissez? Non? Dans le théisme ouvert, Dieu ne peut pas savoir le résultat d'une décision pris par les êtres humains dans l'avenir. Il ne peut pas le savoir parce que ce n'est pas encore arrivé et les êtres humains ont véritablement le droit de prendre une position tellement libre que Dieu lui-même ne peut pas savoir le résultat de cette décision. Maintenant, si vous vous trouvez dans la tradition réformée, vous ne serez pas tenté par cette théologie. Parce que vous avez déjà une confession tellement forte en ce qui concerne la souveraineté de Dieu que ça ne va pas vous tenter. Mais chez les Arméniens, c'est pas rare d'être tenté par cette erreur, il me semble. Pareillement, presque chaque position que nous prenons aujourd'hui est ouverte à un tel et tel erreur, c'est-à-dire est ouvert à une erreur différente que prend une autre position. C'est pour cette raison qu'il faut retourner à maintes reprises à la Bible, pour nous protéger d'erreurs de tous côtés et d'analyser notre culture contemporaine seulement en deux parties, postmoderne, moderne. Comme si ça règle toutes choses et ça nous donne les détails de vie et la théorie d'évangélisation. C'est tellement simpliste, en fin de compte, que ça masque les difficultés et les défis de nos jours. En plus, troisièmement, j'ai donné des indices à cet égard. Maintenant, je veux en parler davantage. L'Église émergente est prête à essayer de comprendre le postmodernisme, mais n'est pas prête à critiquer le postmodernisme. C'est-à-dire, s'il y a de bonnes choses à découvrir dans le mouvement postmoderniste, y a-t-il de dangers? Où sont les dangers? Maintenant, il faut faire cela avec le modernisme aussi, avec le pré-modernisme aussi. Mais à moins que nous pensions qu'un tel mouvement, n'importe quoi, disons le postmodernisme, arrive avec toute la compréhension biblique et fidèle, déjà, nous allons y trouver des idées pas mal décevantes, pas mal méchantes, des idées pas mal corrompues, n'est-ce pas? À moins que nous pensions que le mouvement postmoderniste est véritablement un mouvement biblique, il faut toujours poser la question, et où sont les erreurs? Où sont les présupposés qui ne sont pas bibliques? Où sont les dangers? Ne faut-il pas poser au moins ces questions? Et c'est là que nous trouvons presque jamais une pensée ferme et perçante dans les écrits de ces écrivains. Numéro 4. Un grand pourcentage de ces écrivains, à mon avis, utilise une espèce de rhétorique qui n'est pas honnête. C'est une grande critique, cela, mais il faut le dire. Par exemple, Brian McLaren a écrit un livre avec le titre « Une orthodoxie généreuse ». Les raisons pourquoi je suis, et ensuite il ajoute un grand nombre de mots, pourquoi je suis libéral, conservateur, orthodoxe, catholique, pentecôtiste, évangélique, puis ça continue, arminien, réformé, calviniste, luthéran, il ajoute des mots, ensuite, point, et il ajoute, et je grandis encore. Eh bien, dans un monde postmoderniste, avec un titre comme cela, il va vendre des livres. Après tout, ça donne l'impression qu'il a un esprit plus large que les pauvres luthérans, ou les pauvres catholiques, ou les pauvres évangéliques, ou les pauvres arméniens, ou les pauvres calvinistes sont tous trop étroits. Moi, je suis large. Je ne suis pas prêt à condamner mes frères en Christ dans ces autres groupes. Maintenant, j'ai une orthodoxie généreuse. Les raisons donc pour lesquelles je suis, et toute la liste. Donc, j'ai lu le livre en grand détail pour apprendre comment adopter une orthodoxie plus généreuse que j'avais autrefois, et j'étais un peu déçu. La raison pour laquelle il se dit réformé, c'est à cause de cette formule, semper reformandum. C'est-à-dire, toujours on se réforme. Eh bien, Calvin et Melanchthon et Luther, ils voulaient se réformer constamment par la parole de Dieu. Ils voulaient constamment se réformer par la parole de Dieu. C'est vrai. Mais ça ne nous donne pas la définition de ces réformateurs. Après tout, pas mentionnés sont les cinq solas. Sola fide, sola gratia, solus Christus, soli Deo gloria, et ainsi de suite. Pas mentionné. Rien de la prédestination, rien de péché, rien de la compréhension d'être mort avant la grâce de Dieu, rien d'être sauvé par la grâce, par le moyen de la foi, rien de cela. Tout simplement, semper reformandum, c'est-à-dire toujours en se réformant. Parce qu'après tout, ce qu'un homme comme McLaren veut défendre, c'est la position de toujours changer, de toujours se réformer, vous voyez? Mais est-ce que ça veut dire, parce qu'il adopte cette formule, qu'il est vraiment réformé? Pourquoi donc je suis, la raison pour laquelle je suis catholique? Il donne deux raisons. Premièrement, parce que il pense qu'on doit un peu plus d'honneur envers Marie qu'on trouve chez les évangéliques. Et aussi, il veut avoir un peu plus d'espace pour les sacrements. Mais il ne donne pas une définition de sacrement. Il ne parle pas de tout de ce que comprend l'Église orthodoxe catholique, c'est-à-dire en ce qui concerne la transsubstantiation dans la messe. Il ne mentionne pas que Marie est co-rédemptrice. Il ne mentionne rien de ces détails, seulement avoir un peu plus d'honneur pour Marie, vous voyez. Donc, est-ce qu'un vrai catholique dévoué, qui comprend véritablement sa position, est-ce qu'il serait convaincu que McLaren voulait véritablement être catholique romain? La raison pour laquelle je suis évangélique, ah là, ça m'intéressait. Est-ce qu'il était prêt donc à nous donner une définition de l'Évangile? Après tout, ça c'est le fondement de notre compréhension de ce que c'est être évangélique. Être évangélique, ça se dépend complètement de notre définition de l'Évangile. Non. La raison pourquoi il se dit évangélique, c'est parce que il aime la passion des évangéliques. J'apprécie aussi la passion de ceux qui voient le match de football ce soir aussi, ou la passion d'Hitler, ou encore la passion. Est-ce que c'est un critère suffisant pour définir ce que c'est un évangélique? Je pense pas. Dans chaque chapitre, il donne tout un chapitre pour chacun de ces mots. Et à la fin, il se dit orthodoxe, généreux, parce qu'il est libéral, orthodoxe, catholique, évangélique, pentecôtiste. Maintenant, comment est-ce que je peux lire cela et l'évaluer humblement, mais avec clarté? Il me semble. Soit, il ne comprend pas l'affaire. Soit, il le comprend. Mais c'est un argument de rhétorique pour nous manipuler. S'il comprend, il est méchant. S'il ne comprend pas, il est fou. Et les deux côtés, vous ne devez pas le suivre. C'est un peu fort, mais comment est-ce que je peux lire d'une autre façon? J'ai essayé d'être aussi généreux que possible, mais en fin de compte, est-ce que j'ai un autre choix que ces deux-là? C'est-à-dire, au nom du pluralisme, au nom d'être généreux, au nom d'être patient, au nom d'avoir un esprit large, au nom d'être tolérant, on devient soit fou, soit méchant. Soit malhonnête, soit méchant. Maintenant, je ne veux pas dire que toute personne qui adopte la position de l'Église émergente se trouve dans cette position, mais ce livre a été extrêmement populaire dans le monde anglophone. Comme si nous sommes arrivés maintenant à une position plus large, plus grande, plus patiente, plus tolérante. Eh bien, temps pour une pause.